Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
L'UIP, l'Union interparlementaire, a organisé récemment au siège des Nations Unies à New York la deuxième réunion du comité préparatoire pour la conférence mondiale des présidents des parlements. Cette réunion est destinée à l'examen et à l'adoption des nouveaux objectifs de développement des Nations Unies. Martin Chungong, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, s'exprime sur son organisation ainsi que sur l'objectif de sa visite au siège de l'ONU. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani.
À deux titres. D'abord, nous avons organisé en début de semaine, cette semaine, la deuxième réunion du comité préparatoire de notre conférence mondiale des parlements qui aura lieu l'année prochaine ici à New York. C'est une conférence qui se tient tous les cinq ans et cette fois-ci, elle aura lieu à New York à l'occasion du sommet qui est destiné à adopter les nouveaux objectifs de développement. Et ensuite, nous organisons les 18 et 19 novembre une audition parlementaire que nous organisons en collaboration avec le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale. Cette année, une fois de plus, les parlementaires sont en train de discuter, de procéder à des échanges avec les hauts responsables de l'ONU sur les objectifs du développement.
Commençons par le premier sujet dont vous avez parlé, la conférence des parlements, c'est ça ce que vous avez dit ?
La conférence des présidents des parlements.
Des présidents des parlements. Cette conférence, elle est annuelle aussi ?
Non, c'est un sommet des parlements représenté au plus haut niveau par les présidents qui se tient tous les cinq ans pour discuter un peu de la marche du monde et en quelque sorte expliquer un peu, exposer la vision parlementaire des grands dossiers qui préoccupent le monde. Et on envisage aussi des solutions sous l'angle parlementaire.
Alors, c'est tous les présidents des parlements du monde qui participent ou il y a une sélection ou un critère de sélection pour ça?
C'est tous les présidents des parlements du monde qui sont conviés à ce sommet.
Et vous attendez à combien de personnes, par exemple?
Habituellement, nous avons à peu près 150 présidents de parlement sur les peut-être 200 présidents des parlements qui existent dans le monde.
Et pourquoi les autres ne participent pas, disons?
Je pense que c'est très difficile de réunir tous les 200 présidents des parlements. Donc, c'est une question de calendrier. Donc, nous sommes obligés d'opérer ce choix.
Et après cette réunion-là des présidents des parlements, qu'est-ce qui en sort, en fait? Ce qui en sort a un impact sur la marche du monde, comme vous avez dit.
Oui, mais nous disons que c'est très beau de dire que donc il y a un certain nombre de choses qu'on devrait faire sur le plan international pour résoudre les grands dossiers. Mais en tant que parlement, en tant qu'institution dans chaque pays qui est chargé de mettre en place un cadre législatif, assurer le contrôle de l'action gouvernementale, affecter des ressources, il incombe au Parlement donc d'occuper les devants de la scène sur le plan national. Donc nous insistons pour que, une fois les déclarations faites au niveau des sommets, que les parlements soient à même de mettre en œuvre ces recommandations, s'assurer que leur gouvernement, au niveau national, puisse mettre en œuvre les recommandations qui sont formulées sur le plan international. Et nous venons de passer en revue la mise en œuvre des différentes recommandations qui ont été formulées à l'occasion des présidents de conférences des présidents. Le bilan est très élogieux.
Parlons maintenant de cette réunion des parlementaires qui sont venus de par le monde ici. En fait, ils viennent aussi de manière annuelle à New York.
Oui, ils viennent de manière annuelle à New York pour procéder à un échange entre eux et les hauts responsables de l'ONU pour qu'ils puissent être sensibilisés sur les grands enjeux, sur les grands dossiers qui préoccupent le monde. Nous nous plaignons du fait que les parlements sont absents des grandes discussions et nous estimons qu'avec des auditions comme celles qui se tiennent cette semaine à New York, les parlementaires seront sensibilisés à ces dossiers pour être mieux à même de les incorporer dans les politiques nationales et affecter des ressources conséquentes.
Alors, quels sont les principaux dossiers qui ont été traités ou qui se traitent encore au niveau des auditions des parlementaires?
Je vais prendre l'audition qui se tient actuellement et de procéder à une large consultation de l'ensemble des acteurs dans les efforts destinés à concevoir le nouveau cadre de développement durable qui sera adopté l'année prochaine. Et les parlements et les parlementaires sont partie prenante dans ces consultations. L'audition qui se tient cette semaine à New York tient compte de cette problématique. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure les parlements peuvent contribuer à la confection de ce nouveau cadre, mais surtout comment les parlements vont s'inscrire dans la perspective de la mise en œuvre de ces objectifs une fois adoptés l'année prochaine.
Comment voyez-vous cette situation actuelle où les pays sont représentés au niveau des Nations Unies dans toutes les instances onusiennes, qu'il s'agisse de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, partout, et qu'il y ait aussi une doublure, donc une autre représentation des parlementaires qui viendraient discuter des questions onusiennes, des questions du monde, en lieu ou en contradiction peut-être avec la position gouvernementale qui est déjà là par ses représentants à New York.
Je devrais dire que l'action que mène l'Union interparlementaire est destinée à favoriser un partenariat entre les exécutifs, c'est-à-dire les gouvernements et les parlements. C'est un partenariat qui devrait exister au niveau national et de plus en plus au niveau international parce que nous avons décrié le fait qu'il y ait un déficit démocratique dans le fonctionnement du multilatéralisme. Nous ne sommes pas là pour nous substituer au gouvernement. Dans l'ordre normal des choses, c'est le gouvernement qui négocie les traités, les engagements au niveau international, mais nous pensons que les parlementaires, en tant que représentants du peuple, peuvent aider le gouvernement à mieux adopter des politiques qui aillent dans le sens des intérêts du peuple. C'est pour cela que les parlementaires viennent ici à New York d'abord pour se sensibiliser sur ces grands dossiers et apporter leur propre vision de la marche de la société.
Ce sont tous les parlementaires qui viennent sur invitation de l'UIP ou ils viennent d'eux-mêmes à New York?
Nous convions tous les parlements à ces assises. Et c'est à chaque parlement de désigner une délégation pour participer aux travaux de ces assises. Donc, c'est une réunion qui est ouverte à l'ensemble des parlements du monde.
Alors, il y a ces délégations qui viennent des pays, qui viennent des différents parlements. Il faut combien de parlementaires par pays? Il y a des nombres
Nous n'avons pas fixé de nombre. Il y a des parlements qui sont représentés ici par une douzaine de parlementaires, comme il y a d'autres qui sont constitués de deux ou trois parlementaires. Ça dépend de l'intérêt que chaque parlement porte aux dossiers qui sont traités par l'audition.
Monsieur Martin Chungong, revenons un peu sur votre organisation, l'Union interparlementaire. En fait, elle a été créée quand cette Union interparlementaire et quel est l'objectif de votre organisation?
En fait, l'organisation existe depuis 125 ans. Nous fêtons cette année le 125e anniversaire de l'Union interparlementaire. Cela veut dire que c'est une organisation qui a été fondée en 1889, bien avant la Société des Nations, bien avant l'ONU, qui fêtera ses 70 ans l'année prochaine. Donc c'est une organisation qui, à l'origine, était une organisation de quelques parlementaires pacifistes qui prônaient le dialogue comme moyen de résolution de conflits. Et au fil des ans, c'est devenu une organisation d'envergure mondiale réunissant actuellement 166 parlements à travers le monde. Et c'est une organisation qui se voue à la promotion d'abord, la participation des parlements à la bonne marche de la société, tant au niveau national qu'au niveau international. C'est une organisation qui se voue à la promotion de la démocratie parce que nous disons que pour qu'un parlement puisse jouer son rôle comme il faut que ce parlement fonctionne dans un cadre démocratique. Il y a donc un tas d'actions que nous menons en ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique, la protection des droits de l'homme, notamment des parlementaires, parce que les parlementaires font l'objet de violations de leurs droits aussi. Et nous pensons que pour qu'un parlement puisse jouer son rôle en toute indépendance, il faut protéger les droits des parlementaires.
Est-ce que vous avez un exemple ou quelques exemples sur le type d'assistance de manière concrète que l'UIP apporte à certains parlements moins nantis, disons?
Disons qu'il y a des parlements, surtout au début des années 90, avec le vent de la démocratie qui a soufflé à travers le monde. Certains parlements, qui étaient de création récente, manquaient de capacités, manquaient de connaissances. Il fallait les aider à mettre en place le cadre institutionnel, la confection des règlements intérieurs, des conseils concernant la mise en place des commissions parlementaires. Et nous avons fait tout cela pour les pays comme le Burkina Faso, comme le Burundi par exemple. Nous avons fait la même chose au Cambodge où en 93 il y a eu élection, mais on n'a pas pensé à l'après-élection. Donc c'est nous qui avons mis en place le cadre logistique pour cela. Donc il y a un certain nombre d'actions que nous menons, par exemple en matière de la promotion de la femme. Nous appuyons les caucus des femmes parlementaires. Je viens de signer un accord avec le Parlement rwandais pour permettre à ce Parlement de confectionner une loi sur la santé reproductive. Et donc, à chaque Parlement, nous essayons d'élaborer un cadre d'assistance qui va dans le sens des problèmes que connaît le Parlement. Donc, il n'y a pas de programme, je dirais, type pour qu'il soit applicable à tous les Parlements. Nous procédons d'abord à une évaluation et puis nous proposons des mesures concrètes.
La collaboration de votre organisation, l'Union interparlementaire avec l'ONU, est-elle récente? Et puis, est-ce que l'UIP a quel statut auprès des Nations Unies? Statut consultatif ou autre?
Je dois dire que nous entretenons cette collaboration depuis la création de l'ONU, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons été fondés avant l'ONU, mais cette collaboration s'est beaucoup accélérée ces derniers temps et nous bénéficions du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela veut dire que nous avons le droit de nous adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies et sur le plan opérationnel, nous avons des programmes de collaboration avec les fonds et départements et programmes des Nations Unies comme le PNUD, comme ONU Femmes dans les domaines de préoccupations mutuelles.
Comment se fait l'adhésion des parlementaires à votre organisation, l'UIP?
L'Union interparlementaire a une définition d'un parlement. En fait, c'est les parlements sur le plan institutionnel qui sont membres de l'Union. Ce ne sont pas des parlementaires individuels qui adhèrent à l'Union.
C'est comme si on a l'impression que l'UIP est en train, entre guillemets, de réveiller les parlements, notamment de certains pays du Sud. Est-ce que vous n'avez pas des fois de conflit avec le gouvernement des pays du Sud, des pays pauvres, par rapport au fait que leurs parlements sont affiliés à l'UIP et que des parlementaires de ces pays viennent ici pour recevoir des matières sur lesquelles ils font leurs argumentations une fois rentrés dans leur pays? Il n'y a pas de conflit entre le gouvernement et l'UIP par rapport à ce lien international entre les parlements et les parlements nationaux?
Je ne pense pas qu'il y ait conflit. Je n'en ai pas connaissance dans tous les cas. Nous disons par exemple que de plus en plus les délégations nationales qui participent aux travaux de l'ONU soient, disons, intègrent les parlementaires. Et il y a de plus en plus de pays qui le font. Il s'agit d'un partenariat. Les parlementaires ne sont pas là pour mener la vie dure au gouvernement, mais plutôt ils sont là pour apporter un appui à l'action du gouvernement.
Dernière question, c'est pour finir par vous-même. Martin Chungong, vous êtes le secrétaire général de l'Union interparlementaire. Quel est votre parcours?
Mon parcours, donc, je dois dire que j'ai œuvré toute ma vie à la promotion du parlementarisme. D'abord au niveau national, dans mon pays d'origine, le Cameroun, où j'ai exercé toute ma carrière professionnelle au niveau national, avant d'intégrer l'Union interparlementaire. Et au niveau de l'Union interparlementaire, j'ai eu à mettre en place un programme justement destiné à renforcer les parlements dans les nouvelles démocraties, dans les pays émergents de conflits. Ça, c'est un travail que j'ai fait au niveau de l'Union et je dois dire que donc j'ai pu gravir tous les échelons au niveau de l'Union interparlementaire pendant, je dirais, 20 ans et j'ai été élu secrétaire général de l'Union interparlementaire au mois de mars dernier. Avant, j'étais secrétaire général adjoint.
Félicitations.
Merci. Et donc, les gens aiment dire que je suis le tout premier non-européen à occuper le poste de secrétaire général de l'Union interparlementaire depuis la création de l'institution. Donc, je pense que c'est un motif de fierté pour moi-même, mais également pour les autres pays non-européens.
C'est ainsi que se referme Escale, consacrée à l'UIP, l'Union interparlementaire, avec notre invité Martin Chungong, le secrétaire général de l'UIP. Escale est un magazine de la Radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani, avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Bettina Lioré. Merci de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.